Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Mi barré.
Bonjour Roselyne, bonjour à tous.
Eh oui, 100% bachelot avec... Eh oui, c'est le sujet du jour. Nous avons 11 jours fériés en France, auxquels il convient d'ajouter les ponts. Plus sérieusement, il y a un impact économique de tout cela, puisque l'INSEE a calculé que les jours fériés nous coûtaient 0,1 point de PIB, soit 2 milliards, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il faut quand même combattre une idée reçue, parce que la parole est à la défense. Nous sommes dans la moyenne européenne. Contrairement donc à ce qu'on pourrait penser. Alors il y a des pays comme l'Espagne, le pays de Cocagne avec 15 jours fériés. Alors, situé en Angleterre, hein, les Français qui rêvent d'aller au Royaume-Uni, ça tombe à 8. Pas de bol là aussi. Alors se pose aussi la polémique récurrente du fait que 6 sur les 11 sont liés à des célébrations catholiques. Mmh. Alors y a-t-il trop de jours fériés? Faut-il les aménager? On en débat.
Oui, on en débat au 32-16 sur rmc.fr, sur ton compte Twitter,
Bachelot underscore RMC.
Exactement, et puis vous n'oubliez pas, vers 15h45, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous touche, ce qui vous marque, et vous nous appelez au 32-16.
En 2017, vous allez avoir le temps de ne rien faire pendant des week-ends à rallonge. Car, bonne nouvelle, l'année 2017 nous offre 6 week-ends de 3 jours.
Je vais pouvoir partir en week-end, ça va être sympa, c'est mieux que l'année dernière.
On voit bien que les ponts, les aqueducs que l'on peut avoir au mois de mai est extrêmement pénalisant pour notre économie.
Au mois de mai, sur 4 jours, on va perdre 15% de chiffre d'affaires. Chaque jour que les camions roulent pas, c'est de l'argent perdu.
2 jours fériés en moins, c'est 1 point de croissance en plus.
C'est certain, si vous supprimez 2 jours fériés, c'est sûr, vous créerez un petit peu de croissance, un petit peu de richesse.
Moi, je suis pour qu'on travaille les jours fériés. Il y a plus de monde, il y a plus d'activités, c'est plus agréable, même la clientèle est plus agréable et plus détendue.
Joli, joli, joli mois de mai.
Eh oui, y a-t-il trop de jours fériés? C'est l'occasion d'en débattre. Et tout de suite avec nous, nous avons Olivier Babeau, économiste, vice-président de la Fondation Concorde. Bonjour Olivier Babeau.
Bonjour Rosine Bachelot.
Alors Olivier Babeau, il faut faire le point sur l'impact économique des jours fériés. Pour vous, pour l'entreprise, pour l'activité du pays, à un moment où on se pose des questions sur la croissance, sur le chômage, c'est une bonne chose d'avoir 11 jours fériés?
Oui, alors souvent les jours fériés peuvent apparaître comme une sorte de solution miracle à la croissance et au chômage, ce qu'ils ne sont pas, il faut le dire assez clairement. Si on divise effectivement le nombre de jours ouvrés par le PIB, on a en fait un jour ouvré qui équivaut à peu près 0,4% du PIB. Mais il y a un effet vase communicant. Quand vous travaillez pas un jour, bah très souvent vous partez en week-end, vous faites travailler des restaurateurs, vous faites travailler
ouais,
des hôteliers.
C'est ça, oui.
Donc il y a une partie de l'économie, si vous voulez, qui fonctionne quand l'autre ne fonctionne pas déjà.
Oui, la France ne s'arrête pas. Oui,
Bah non, la France ne s'arrête pas. Sauf que vous allez à des endroits où vous allez peut-être dépenser effectivement autre chose. L'INSEE du coup effectivement a fait ce calcul que un jour en moins de travail, ce serait 0,1% de PIB en plus. Comme on estime que 1% de PIB en plus c'est 100 000 emplois, il faut savoir que 0,1% c'est environ 10 000 emplois. Donc vous voyez, si on supprime 2 jours fériés, ça fait dans le maximum des cas 20 000 emplois que vous allez gagner. C'est quand même pas.
Et sur un compte, sur un calcul que vous dont vous contestez les fondamentaux, Olivier Babeau.
Celui de l'INSEE, non, celui de l'INSEE, je pense assez vrai. Alors il y a des discussions, donc c'est très compliqué à évaluer. La réalité, c'est que tous ces jours fériés et puis tous ces ponts dont vous parliez peuvent créer des effets de désorganisation dans les entreprises. Le problème, c'est peut-être pas que les gens partent à un moment donné en congé, c'est qu'ils partent tous en même temps.
Ça
donne un effet de désorganisation. Ça peut, surtout dans des industries, rendre la production très compliquée. Bon, il y a d'autres endroits où on peut s'arranger, où on peut effectivement remettre du travail à un autre moment. Mais globalement, on pourrait dire qu'il y a un effet de désorganisation qui simplifie pas les choses. Surtout dans un mois de mai qui est souvent
on a l'impression que il y a une concentration des jours fériés sur la même période, alors qu'on aimerait souffler, par exemple, à d'autres moments où il y a rien.
Bien sûr. Ouais. Finalement, je crois que le vrai problème à la croissance, ces jours fériés, je pense que c'est assez anecdotique. C'est plutôt beaucoup plus urgent de flexibiliser les embauches, de simplifier le droit du travail, de baisser les charges.
Ah, donc... Olivier Babeau, justement, on a avec nous quelqu'un qui ne va pas être d'accord, n'est-ce pas, Rémi?
Frédéric nous appelle au 3216. Frédéric qui nous appelle depuis le Pas-de-Calais.
Merci. Bonjour, Frédéric.
Bonjour.
Alors, vous êtes commerçant, vous êtes donc confronté dans votre activité à cette question des jours fériés. Vous trouvez là aussi qu'il y en a trop?
Ah bah c'est clair qu'il y en a trop. On va prendre l'exemple du mois de mai. Alors effectivement, c'est l'exemple le plus flagrant, mais sur le mois de mai, il y a pratiquement une semaine sur un mois qui en compte, on va dire 4,5, où les gens ne sont pas au travail, ou partis, ou en week-end. Alors effectivement, ce que dit le monsieur
Olivier Babeau,
oui. Il y a un transfert. Il y a un transfert qui se fait au niveau de l'économie vers le tourisme, etc., etc., à condition que les gens qui partent ont de l'argent. Et aujourd'hui, je crois que le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils restent chez eux. Voilà. Et en plus, c'est un casse-tête pour les entrepreneurs. Enfin, je vais refaire un planning avec des jours de fermeture, des jours de production, etc. Enfin, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui avec tous ces jours fériés. En plus, on a des ventes qui sont complètement irrégulières parce que on sait pas trop. Alors, quand ça tombe un lundi, on est à peu près sûr qu'ils font le pont. Mais alors, quand ça tombe un jeudi, est-ce qu'ils vont partir le vendredi? Enfin,
vous êtes dans quel secteur, Frédéric, d'activité?
Moi, je suis dans le secteur de la restauration rapide.
Oui, c'est
et de la boulangerie.
Et de la boulangerie. Ah oui, c'est
vraiment
des produits frais et vous pouvez, il faut vous organiser. Oui.
Je vais vous donner un exemple. Le 1er mai, nous, on a fait le choix parce qu'on est dans un centre commercial de fermer, parce que le centre commercial ferme et que bon, voilà. Ça veut dire que je suis fermé dimanche et lundi. Je fais comment au niveau de la production? Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On se dit, alors on ferme 48 heures, ça veut dire qu'il faut tout relancer, et puis ça recommence la semaine suivante. Enfin, vous voyez, donc c'est quelque chose. Enfin, pour nous, il y a vraiment une perte sèche. Et de toute façon, on le voit dans les chiffres d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires du mois de mai est un des plus petits mois de l'année. C'est pas parce que on travaille moins bien. C'est parce que justement, on a un problème de jours fériés, chômés, des gens qui ne sont pas là, qui s'en vont, qui partent en week-end ou qui restent chez eux, en famille, etc. Et que pendant ce temps-là, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un gros problème.
Sauf que je m'adresse autant à Frédéric qu'à Olivier Babeau. Frédéric, il est dans la restauration rapide, il est dans un centre commercial qui ferme le 1er mai, donc forcément, on comprend qu'il choisisse de fermer. Mais c'est pas du tout le même sentiment de la part de professionnels qui sont, eux, par exemple, dans le tourisme, dans la restauration, où là, si vous leur dites, on supprime les jours fériés, ils vont pas être d'accord du tout.
Il faut voir effectivement l'effet global, qui évidemment inclut cette espèce d'effet de vase communicant. Pour les commerçants, c'est tout à fait vrai, d'autant plus que les commerçants ont souvent des chiffres d'affaires qui sont concentrés sur certains moments de la semaine, par exemple le samedi, les études ont montré que quand les jours fériés tombaient un samedi, il y avait plus d'impact sur l'économie, plus d'impact négatif, parce qu'effectivement, vous avez tous ces commerçants qui effectivement perdent ce jour qui est pour eux.
Oui, il y a jour férié, hein, le positionnement dans la semaine, Olivier Babeau, a beaucoup d'importance sur l'impact économique.
Ça joue beaucoup, donc il y a des années fastes, il y a des années effectivement moins fastes. Je crois que 2017 n'est pas le pire cru qu'on ait eu, mais enfin, c'est quand même pas mal.
C'est quand même
pas. De quel point de vue on se place, évidemment.
Frédéric, vous qui êtes dans la restauration rapide, vous avez noté cette importance dans votre activité du positionnement du jour férié dans la semaine?
Ah, c'est indéniable, effectivement. Un jour férié le samedi, c'est une catastrophe pour le chiffre, parce qu'on sait que le samedi, les gens sortent en famille et viennent plus facilement manger le midi, etc. Donc effectivement on a une grosse perte de chiffre d'affaires. Mais je vous dis, au-delà de la problématique du chiffre, c'est aussi la problématique de faire des plannings, de faire travailler les gens,
de l'organisation de la boîte, quoi.
Alors là, ça tombe un lundi, donc ils ont deux jours, ils sont contents, mais quand ça tombe par exemple un mardi ou comme le jeudi de l'Ascension qui tombe
le jeudi,
comme son nom l'indique, qui souhaiterait partir le vendredi et le samedi. Enfin, c'est vraiment au niveau des plannings, c'est extrêmement compliqué. Et je vous dis, le mois de mai, on a l'impression que le mois de mai, on perd une semaine, quoi. Il y a pratiquement une semaine qui s'en va de chiffre d'affaires, parce que on est fermé, parce que ou effectivement il y a un report. Je nie pas le fait qu'il y a des reports qui se font vers le tourisme, etc. Mais au niveau de l'industrie, etc., enfin, moi, ça me paraît extrêmement compliqué. J'ai été patron avant, dans une vie antérieure, patron d'hypermarché, et on avait les mêmes problématiques pour les plannings. Enfin, c'était super compliqué à mettre en place. Et je pense effectivement, alors moi je suis pas en train de dire qu'il faut en enlever ou pas en enlever, ce que je dis c'est que ça pose un problème économique et il faut peut-être se poser la question dans une situation assez difficile.
Ceci dit, Frédéric, vous avez été patron de supermarché, vous voyez qu'aujourd'hui, enfin moi je le vois, on le voit tous autour de nous, les jours fériés sont de moins en moins respectés par les supermarchés.
Ah bah c'est clair.
Avec l'organisation, le fait d'avoir à payer beaucoup plus les salariés, cette...
Oui, là, mais effectivement, les grandes surfaces qui avant n'avaient pas le droit d'ouvrir, etc., aujourd'hui peuvent le faire, ce qui est ou encore au détriment du petit commerçant. Hein, je le redis, les petits commerces essayent de s'adapter. C'est compliqué, ça va vite, trop vite peut-être. Ces bouleversements dans la consommation. Les jours fériés ont toujours existé. Au mois de mai, on a toujours connu un nombre très important de jours fériés. Mais moi je dis, ça pose un problème et que dans une situation économique difficile, il faut peut-être se poser la question de savoir est-ce que il serait pas bon de revoir.
De revoir certaines dispositions.
J'entendais parler de 10 000 emplois. Je veux dire, quand je vois ce que le CICE a coûté pour créer les emplois que ça a créés, je me dis à un moment donné que même 10 000 emplois, si ça coûte rien, à part un effort, à part un effort supplémentaire des gens pour venir travailler un jour férié qui devrait être chômé. Faut peut-être se poser la question.
Merci Frédéric. Olivier Babeau, c'est vrai, on est là, vous dites 10 000 emplois, c'est pas grand chose, mais quand on voit l'argent qu'on met dans certaines opérations, dans certaines dispositions gouvernementales, 10 000 emplois, pour les gens qui en bénéficieraient, c'est quand même pas rien.
Bah, évidemment, le moindre emploi gagné est toujours positif. Et vous mettez le doigt sur quelque chose effectivement qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'il faut souvent, d'ailleurs, dans les actions du gouvernement, faire le compte entre ce que ça a coûté collectivement et les emplois qu'on a créés. C'est sûr que les jours fériés, à côté, ça coûterait rien, en quelque sorte, aux frais de l'État. Mais quand on voit la difficulté qu'on a eue à supprimer lundi de Pentecôte... qui n'a pas été supprimé. On a quand même derrière une réticence culturelle, et si on parle de culture, on peut effectivement parler aussi du poids religieux ou de la symbolique religieuse de ces jours. Peut-être que, alors je crois savoir qu'aux Pays-Bas, l'idée était que, étant que les jours fériés étaient les jours fériés associés à une religion qui n'est pas forcément celle de tout le monde, on pouvait laisser la liberté aux gens de choisir, on pourrait dire, leur jour chômé, en fonction de leur religion. Ce qui paraît une idée, sans vouloir nier les racines, n'est-ce pas, catholiques de la France, mais et chrétiennes, mais une idée intéressante, ça pourrait être d'individualiser un peu plus les jours fériés en disant il y a des jours des fêtes religieuses
c'est une piste effectivement que cette individualisation des jours fériés, même si il n'est pas douteux que ça relancera certaines polémiques dont on aimerait plutôt qu'elles disparaissent du débat public.
Tu veux dire qu'en France la religion serait polémique, les questions religieuses?
Moi j'ai un mauvais esprit.
Laurent nous appelle au 32-16 depuis la Gironde.
Bonjour Laurent.
Bonjour Roselyne.
Alors, vous êtes un militant, un jour férié militant ou opposant? Vous voyez les choses comment, Laurent?
Je vais être pragmatique. Quand les jours fériés tombent un lundi ou un mardi, notamment ceux du mois de mai, parce que c'est là où il y en a le plus, ça fait polémique, où il y a trop de jours fériés, blablabla. Quand ça tombe le dimanche, on n'entend pas parler. Pour moi, j'entends les arguments des uns et des autres. Je pense que l'économie du tourisme, elle s'y retrouve quand ça tombe un lundi. C'est un peu plus compliqué quand ça tombe à mardi. Et après, j'entends les arguments aussi de on perd une semaine de travail. Mais c'est bien ces petits congés entre guillemets, je pense, pour le lien social et tout ça. Il n'y a pas que le travail. On perd un peu d'argent, mais c'est des moments où il fait beau, où les gens se retrouvent. Et c'est important aussi. Faut pas aussi regarder que la semaine de travail que l'entreprise elle perd.
Laurent, je vous entends. Moi, je trouve que ces respirations sont tout à fait utiles et d'avoir des petites pauses comme ça dans l'année. Mais pourquoi en avoir 3 ou 4 dans le mois de mai? Est-ce que ce serait pas mieux à ce moment-là de les répartir sur l'ensemble de l'année?
Oui, c'est ballot que le 8 mai on ait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait fallu attendre, je sais pas, moi.
C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort.
Oui, ils auraient pu faire un effort.
C'est ballot. Je veux dire, à part le 1er mai où j'entends bien le 1er mai.
Oui, surtout que là, c'était un papier qu'on a signé, On aurait pu attendre un peu,
On aurait pu voir l'antidater, par exemple.
Oui. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut militer pour la fin de la guerre. Je sais pas, moi, quand ça arrange tout le monde.
Moquez-vous de moi, Laurent. Je sens, là, c'est pas sympa, Laurent.
Il y a que le mois de mai qui focalise. Le 11 novembre, j'aime personne. Le 1er janvier...
C'est vrai qu'il y a le 1er novembre juste avant, oui.
je gêne personne, je veux dire, c'est parce que là vous avez le 1er mai, une semaine après il y a le 8 mai, cette année je crois qu'il y a encore le 15 mai qui tombe, enfin après vous avez tout le week-end de l'Ascension.
Il y a tout le week-end à partir du 25 quand même,
donc, effectivement là ça fait, on va dire ça fait beaucoup, mais une grande entreprise sérieuse, elle découvre pas le 24 mai que c'est férié pendant 5 jours, elle sait ça depuis 2-3 ans, je veux dire, c'est les plannings, c'est géré. Après j'entends, si soir oui on perd une semaine, etc. Enfin, si on a une semaine près sur une année qui en fait 52, il faut aussi s'inquiéter, quoi.
Justement, Olivier Babeau, tout à l'heure, Laurent proposait qu'on puisse mettre son jour férié, enfin choisir ses jours fériés comme on souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est une mauvaise idée.
Bon. Parce que là, c'est Olivier Babeau. Olivier Babeau, paf, Laurent vient de vous cogner, là.
Non, je le prends pas mal. En plus, c'est un compatriote de Gironde. Alors,
ah bon, alors oui, très bien.
C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Après, chacun va choisir son jour. Et là où il parlait de planning, que c'était ingérable, pour le coup, ça va être ingérable. Moi, je vais me trouver une... c'est pas si ingérable que ça, on y arrive.
Laurent, si vous me permettez, vous avez jeté une pierre dans le jardin d'Olivier Babeau, on va le faire répondre. Olivier, alors, c'est d'avoir une sorte de package de jours fériés dont on pourrait disposer à son gré.
Moi, je trouve que d'abord, finalement, c'est ce qui existe déjà, puisque c'est le cas des vacances et c'est le cas des RTT. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les poser en fonction, effectivement, en accord avec l'entreprise,
oui,
en
bien sûr,
avec elle, ce qui permet à l'entreprise de s'organiser. Effectivement, tout le problème, c'est quand vous avez, évidemment, personne, ou quand, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des gens. Voilà, donc c'était une idée comme ça. Je considère pas qu'elle est facile à mettre en place. Je crois, en effet, que la piste d'une déconcentration pourrait être un peu plus intéressante d'un point de vue économique, mais d'un point de vue... social et culturel, difficile à faire accepter. Maintenant, on va pas pouvoir le déplacer. Une fête religieuse, on pourrait l'expliquer, mais en l'occurrence, le 8 mai, c'est pas le cas.
Ceci dit, Olivier Babeau, il y a un certain nombre de professions qui n'ont pas le droit aux jours fériés.
Oui, absolument. Vous avez des professions d'ailleurs qui n'ont aussi pas de dimanche, au sens où vous ne travaillez pas forcément tous les dimanches, mais
il y a un rattrapage pour ce qui est des policiers, des gendarmes,
des infirmières,
des journalistes aussi.
Exactement. Il y a des systèmes de rattrapage, il y a des systèmes où ils sont payés mieux. C'est pas forcément le cas d'ailleurs dans la santé, entre parenthèses, mais c'est plus le cas maintenant d'ailleurs, je crois, depuis les dernières lois sur le travail du dimanche, toutes les professions justement qui sont amenées à travailler de temps en temps le dimanche. Donc il y a une compensation salariale et parfois une compensation en repos ou en jours de vacances en plus qui peut être
intéressante,
et que le travailleur ou le travailleur peut y trouver son compte. Et on parlait justement du fait de pouvoir vivre un peu des moments en famille. Évidemment, ce sera pas tous au même moment, mais il y a ces capacités quand même aujourd'hui. On a, encore une fois, on a beaucoup de vacances par rapport aux autres. On n'est pas les moins bien lotis quand même.
Merci Olivier Babeau. Alors Laurent, merci.
Juste pour finir, oui, j'entends
et
là.
Et puis vous nous dites ce que vous faites pendant le Grand Pont de l'Ascension, là. Hein.
Moi, Grand Pont de l'Ascension, je suis sur Arcachon et j'aide à juger le jumping d'Arcachon.
C'est pas mal.
Donc je vous encourage à venir. Il y a un jumping sur la plage, c'est vraiment magnifique.
Oh là.
Mais vous voyez, j'entends, on sera pas en vacances tous en même temps, mais moi, pour moi, c'est important qu'il y ait beaucoup de Français en vacances en même temps, ça crée du lien. Toutes ces petites manifestations qui existent autour des grands ponts, c'est super important, c'est des moments où les villages se rencontrent et les gens se rencontrent, etc. Et si on va vers l'individualisme, moi je choisis tel jour et tel jour, oui, ils seront en famille, mais ils seront plus...
On
a un problème en France en ce moment avec le vivre ensemble, vous voyez.
Voilà, Laurent, les jours fériés, un moyen de vivre ensemble dans notre pays. Belle mini conclusion, on se retrouve dans un instant.
Absolument, Rémi. On continue à débattre de ce sujet. Y a-t-il trop de jours fériés en France? Quelle solution, pour améliorer un peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est très discuté, donc on va essayer de trouver des pistes. Et puis dans 20 minutes, vous n'oubliez pas, c'est vous qui faites l'actu. Vous nous dites ce qui vous marque, ce qui vous touche, et vous nous appelez au 3216.
RMC. Après la Première Guerre mondiale, ils ont fériérisé le 11 novembre pour dire plus jamais ça.
Ouais.
Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fériérisé le 8 mai pour dire plus jamais ça.
Ouais.
15h-16h.
Du coup, ils auraient dû annuler le 11 novembre.
Bah ouais, mais ils l'ont pas fait. Si tu veux un nouveau jour férié, faut faire une Troisième Guerre mondiale.
Attends, ça veut dire qu'on a 363 guerres mondiales de plus jamais travailler dans l'année.
100% bachelot.
Un jour férié qui tombe un dimanche, C'est comme sécher les cours alors que le prof est pas là.
Roselyne Bachelot.
100% Bachelot, on continue. Y a-t-il trop de jours fériés dans notre pays? Pas moins de 11. Dans cette première partie, on a eu le boulanger Frédéric qui fait de la restauration rapide, qui nous a dit, moi ça désorganise complètement mon activité, ça me fait perdre du chiffre d'affaires. Mais on a eu Laurent qui nous a dit, au contraire, eh bien c'est le moyen de se retrouver, c'est du vivre ensemble et notre pays en a besoin. Alors, on continue ce débat assez enflammé, et même très enflammé, sur y a-t-il trop de jours fériés. Et nous sommes avec Catherine Lejal, sociologue à l'Institut supérieur de commerce de Paris. Bonjour Catherine Lejal.
Bonjour Rosine.
Alors Catherine, il faut trancher ce débat entre nos amis Frédéric et Laurent. Qu'est-ce qui compte dans ce débat pour vous?
Je pense que ce qui compte, et le 1er mai, c'est la fête du travail, donc c'est vraiment l'occasion de le dire, c'est qu'on a droit à des pauses. Déjà au 19e siècle, c'était une évidence pour des politiques hygiénistes de donner finalement un temps de repos à l'ouvrier pour restaurer sa force de travail. C'était évident que le muscle, la force de travail a besoin de repos. Et aujourd'hui, dans nos travaux, dans nos métiers de cadre, on se rend pas compte que le cerveau a aussi besoin en fait de moments, de vacances, de disponibilité pour être plus efficace juste à la reprise du travail.
Mais Catherine, je vous suis assez bien sur la nécessité des pauses. Mais le problème, c'est de l'organisation de ces pauses là. Attendez, moi j'ai besoin de poser aussi bien en février, où on a une espèce de long tunnel où il n'y a absolument aucun jour férié entre le jour de l'an et Pâques. Et puis tout d'un coup, on tombe au mois de mai et on est une semaine sur le mois de mai à se reposer.
C'est vrai que mai cette année, et en France, est particulièrement... on va de pont en aqueduc. Mmh. Mais donc je pense qu'il faut vraiment cette prise de conscience de se dire finalement notre outil de travail, c'est plus le muscle, c'est le cerveau. Il a autant besoin de moments justement de repos. Le philosophe Pascal disait que pour avoir du chaud, il faut avoir du froid. Donc pour avoir en fait une puissance de travail efficace, il faut aussi avoir ces moments de non, vacances, mais
Mais Catherine, je m'excuse, mais vous ne répondez pas à ma question là. Est-ce que le problème, c'est pas de réorganiser et de réétaler les jours fériés en dehors de toute considération sur l'aspect religieux des fêtes? Vous vous placez en organisatrice du travail et je veux retenir que cet aspect.
Si on avait le choix, pourquoi pas avoir le choix? Et ceux qui veulent respecter les fêtes religieuses, qui sont croyants, ils les poseraient ces jours-là, par exemple, hein, et les autres pourraient les poser un autre jour, un autre moment.
Je pense déjà qu'il y a tous les week-ends. Là, effectivement, en mai, on a beaucoup de jours fériés, mais toute l'année, on a des week-ends, on a des soirées, donc on a la façon de...
J'ai jamais proposé de revenir sur les week-ends.
Bien sûr, mais on ne s'octroie pas forcément. Ça part du salarié qui n'a pas cette prise de conscience, parce qu'on est effectivement dans un univers concurrentiel et on a peur que notre place soit prise, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est pour soi qu'il faut le faire, si on ne le fait pas pour son employeur.
D'accord. Alors, on continue le débat avec vous, Catherine. Qu'est-ce qu'on a au
32-16? Au 32-16, je vais te taquin. Je t'ai choisi un spécialiste des congés des jours fériés, puisque c'est un Hervé, il est enseignant dans l'Aveyron.
C'est moche, Rémi. Bonjour, Hervé.
Je taquine, Hervé.
Rémi. Alors, en plus, c'est même pas du taquinage, Rémi. Vous me tendez la perche, puisque avant d'être enseignant... dans l'hôtellerie-restauration, puisque je suis enseignant en lycée professionnel, j'ai été pendant 8 ans salarié dans l'hôtellerie-restauration.
Ah, donc vous êtes en train de les récupérer,
patron,
en fait.
Voilà, et patron dans le même secteur, à la Yole, donc, et aujourd'hui au lycée professionnel Sacré-Cœur, pour pas le nommer, à Saint-Chély-d'Apcher, en Auvergne.
Très bien, la Yole, belle ville.
Voilà, donc j'ai quelques années devant moi, si vous voulez, Rémi, pour récupérer...
Dans l'hôtellerie-restauration, voilà. Je suis d'accord.
Voilà. Donc du coup, si vous voulez, moi, les jours fériés, c'est vrai, comme je viens de vous le dire, je les ai vécus en tant que salarié, donc avec en plus des spécificités suivant les métiers, puisque jusqu'à il y a très peu de temps, l'hôtellerie-restauration et sa convention collective un petit peu particulière ne bénéficiaient pas des 10 jours fériés, ou en tout cas ne bénéficiaient pas des conditions des jours fériés d'autres emplois. J'ai connu donc les jours fériés en tant que patron, comme je vous disais, et aujourd'hui en tant que professeur. Je vais commencer à l'envers. Aujourd'hui, en tant que professeur, le jour férié, pour moi, comme ça vient d'être dit par votre invité, c'est un moment qu'on prend pour soi, c'est une pause. Je pense qu'il y a énormément de Français qui profitent justement de ces ponts du mois de mai et de ces week-ends à rallonge pour partir un petit peu.
Oui, parce qu'ils commencent à faire beau, alors que voilà, si on les prenait en février, on a moins envie de partir.
Avec le changement horaire, on sait qu'il y a le mois de mai qui arrive avec ses jours fériés, etc. Donc quand ça peut permettre des week-ends à rallonge, certains en profitent. Pour les restaurateurs et d'autres métiers, ben, ça va être une activité, alors j'entendais, certes chamboulée en termes d'organisation, mais qui, pour beaucoup d'activités de commerce et de tourisme, ben, va faire un week-end avec une hausse de l'activité et pas l'effet inverse. Et puis pour les salariés, comme je vous le disais, on a effectivement des jours qui vont être payés double ou qui vont pouvoir permettre des récupérations de temps de travail. Moi, en ayant, si vous voulez, cette vision à trois niveaux, à trois étages, vous avez parlé du vivre ensemble, et c'est des notions importantes hein, qu'il faut avoir à l'esprit. Je crois que ces jours fériés, ça permet malgré tout une économie également. Je crois que beaucoup de Français mettent de l'eau au moulin, comme on dit, à l'occasion de ces jours fériés et de ces week-ends à rallonge. Ils vont consommer, ils vont peut-être partir en week-end en chambre d'hôte, en hôtel, ils vont aller au restaurant, ils vont faire des sorties, peut-être qu'ils ne font pas sur tout le reste de l'année. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il faut de nouveau réorganiser les jours fériés?
Oui, parce que c'est ça la question que je voulais vous poser, Hervé. Vous êtes pour autant, pas pour... parce que le débat s'est lancé sur cette proposition. Finalement, ils sont tous concentrés dans le mois de mai. Est-ce qu'il faut pas les étaler à la disposition des salariés et des entreprises? Vous vous dites c'est important de tous partir en même temps, parce que c'est ça qui crée le lien social, si je vous ai bien compris.
Moi, je trouve, voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui crée le lien social. Vous avez le week-end de l'Ascension. Moi, dans mon activité, c'était un des plus gros week-ends de l'année. C'est même pas du mois ou de la période, mais c'était un des plus gros week-ends de l'année en termes d'activité. Par contre, voilà, légiférer sur ces jours fériés, si on part juste dans le contexte, je dirais, un petit peu économico-social, si j'ose dire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va créer des jours fériés à d'autres dates de l'année pour en avoir un de plus en octobre, pour en avoir deux en novembre.
Il s'agirait de remplacer, d'étaler. Ah bah non, on va pas créer des jours fériés supplémentaires.
Mais je suis bien d'accord, je sais pas ce que je propose, Roselyne.
Ah bon?
Mais c'est juste que le calendrier de jours fériés est tel, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait y retoucher, comment est-ce qu'on pourrait modifier. Ça a été tenté, ceci dit, il y a quelques temps, je crois que c'était Monsieur Raffarin.
Lui, il proposait de supprimer pour payer la prestation autonomie aux personnes âgées.
Oui. Un jour un petit peu de solidarité. Je crois qu'il faut... Voilà, c'est...
Ah, ça a été un flop,
compliqué.
Hein.
Ben voilà, mais c'est compliqué de toucher à ça dans la mesure où si vous parlez, je vais dire, à la masse collective des citoyens français, si vous leur mettez jour férié d'un côté et de l'autre un aspect purement économique, rentabilité, parce que vous avez ce discours-là aussi qui existe... Il y a des études qui ont été faites, donc diligentées par les gens, pour nous expliquer, en termes d'économie globale pour un pays, combien perd un pays en termes de chiffre d'affaires à cause des jours fériés. Donc on en arrive là, ça devient quand même un petit peu cynique, je trouve, si on était que dans ce calcul-là.
Hervé, dans un pays où il y a un taux de chômage très important, il est quand même assez normal de se poser la question, avouez.
Oui, j'avoue, tout à fait.
Sans être cynique, quand on pense aux gens qui n'ont pas de boulot, se dire telle ou telle disposition pourrait leur en donner, moi je pense qu'au contraire, c'est assez altruiste comme vision.
Écoutez, moi je trouve que il y aurait tellement d'autres actions justement altruistes à mettre en place pour le fait d'avoir des jours fériés et la corrélation qu'on pourrait en faire avec des gens qui malheureusement pour eux se retrouvent sans emploi. Moi j'ai du mal à le figurer. J'ai l'impression qu'on on vient chercher des solutions en fait, si vous voulez, mais.
C'est pas la bonne,
plus de problèmes, en fait, que ça n'apporterait de solutions à ce problème-là du chômage, puisque c'est de ça dont on parle à l'instant.
Merci Hervé. Alors, on continue au 32-16.
Avec Draz qui nous appelle.
Ah, je suis heureuse de le retrouver, Draz.
Cuisinier au Seine-Saint-Denis.
Bonjour, de vous retrouver au 32-16.
Bonjour Roselyne, excusez-moi. Le temps, oui, il va falloir que je vienne vous voir.
Ah bah oui, bah écoutez, on vous vous attends dans le studio de RMC quand vous voulez. Je vous offre un café.
Avec plaisir.
Dites-moi comment vous voyez cette question des jours fériés. Vous êtes cuisinier, donc peut-être que vous travaillez les jours fériés, vous.
Oh oui, puis même, j'ai toujours travaillé les jours fériés. Je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est juste pour dire que les jours fériés qu'on a en France, pour la grande majorité, ce sont des jours religieux. L'État s'est séparé de l'Église depuis assez longtemps pour arrêter ces jours fériés.
Sur les 11, il y en a 6 qui sont des jours catholiques.
Tout à fait. Donc, plus de la moitié. On s'est séparé de l'Église pour de bonnes raisons, enfin, pour certaines raisons. Ces jours-là, pour moi, ne devraient pas être fériés. Par contre, moi, j'utilise le rasoir d'Occam. Pour un problème, la solution est souvent la plus simple. Pourquoi on ne met pas tout simplement tous les premiers de chaque mois fériés? Ça va beaucoup plus vite.
C'est pas une mauvaise idée.
Non, mais c'est très concret. C'est très concret.
Donc voilà, et le premier jour, il est chômé. À moins, sur la base du volontariat, bien entendu, on souhaite travailler, mais le premier jour de chaque mois férié, comme ça, au moins, plus de problèmes.
Je vais tout de suite réagir, Catherine Lejeune. C'est pas une mauvaise idée, l'idée de Brasse.
Non, je trouve que ça, au moins, c'est effectivement, ça correspondrait à un rythme biologique, naturel, prévisible.
Moi, je viens de regarder, je suis pour, finalement, parce que le 1er juin, ça tombe à vendredi, c'est parfait.
Rémi est déjà en train de faire ses calculs.
Ça,
il ne s'agit pas de se moquer de ce que dit Drache.
Mais non
que
plus,
j'ai senti dans ta voix un petit peu de moquerie. La question, elle est posée, parce que entre ceux qui parlent de la désorganisation, mais ceux qui parlent du vivre ensemble, mais surtout de cette respiration que vous sollicitez, Catherine Lejal, ce serait beaucoup mieux de faire ça, non?
Tout à fait, mais après on arrive dans une régularité un peu moutonnière, et les ponts là du mois de mai, avec cette année particulièrement généreuse, ça fait du bien aussi, parce que ça permet même parfois de faire un gros pont entre deux ponts, et de faire un aqueduc, et là une vraie pause aussi.
Oui, puis alors là on en reviendra à cette notion d'activité économique, parce que pas mal aussi pour l'activité hôtelière, qu'il y ait des ponts à un moment où il fait beau, et on commence à avoir envie de partir, et de s'installer à une terrasse de bistrot pour consommer.
Exactement.
Parce qu'en février...
En restauration, on n'a aucun jour férié, ça n'existe pas.
Ah oui,
chez nous, ça n'existe pas. Donc, et puis il y a d'autres métiers où ça n'existe pas. Notamment au centre de relations clients, les centres d'appel, les services doivent être dispo.
Les services de santé, les services de sécurité.
Les bons centres d'appel. Hein. Centres d'appel, il faut faire la part des choses.
J'en ai connu des bons. Mais voilà, moi, je sais que dans tous les métiers que j'ai pu exercer, et notamment en restauration, les jours fériés font les plus gros chiffres.
Donc il y a une réalité économique quand même. Si on les supprime, c'est pas. Voilà.
Ouais. Tout à fait. Mais par contre, quand on parle de monotonie, si je disais le premier de chaque mois, c'est aussi pour une question d'organisation. Ça simplifierait déjà le patron, parce qu'il faut aussi, on se met souvent à la place des employés, mais il faut aussi se mettre à la place du patron, du secrétariat, de la compta.
Surtout dans les PME.
Exactement, donc ça simplifierait beaucoup de choses. Et vu qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans la simplification de tout, pourquoi pas? Moi, c'est la question que je pose. Pourquoi pas?
Alors, Drasse, vous avez évoqué le fait que sur les 11 jours fériés dans notre pays, la majorité soit des fêtes religieuses catholiques. Est-ce que vous n'avez pas peur, en lançant ce débat, de rallumer une espèce de guerre religieuse? On en a un peu assez.
Forcément, on va entendre les voix qui vont dire oui, mais c'est la tradition, c'est les traditions, c'est la France ancestrale, etc.
Moi, je préviens tout de suite, parce que il y a beaucoup de gens dans leur métier, n'importe quel métier, pour l'Aïd, pour les musulmans qui prennent une journée, pareil pour Hanouka, pour la communauté juive, c'est pour tout le monde. La religion, toute religion est séparée de l'État, toutes les religions. Alors, je ne mets pas la religion catholique en avant forcément, mais c'est vrai qu'en France, on a une ascendance catholique, d'accord. On s'est séparé, le clergé n'existe plus. Après, bien entendu,
Il existe, mais il n'est plus financé par l'État, sauf dans l'Est de la France ou en Guyane. Oui.
Mais je parle aussi pour toutes les autres religions. Pour moi, la religion n'est pas une excuse pour ne pas aller travailler, tout simplement. C'est pour tout le monde pareil. Même pour les bouddhistes, s'ils en ont, même pour tout le monde. C'est pareil.
Merci, Drasse, d'avoir apporté une jolie pierre dans ce débat. Alors, Catherine Lejal, on fait quoi? On reste au statu quo, là?
Je pense qu'on profite des ponts du mois de mai, parce que ça tombe toujours sur une bonne saison. On a une bonne année. Et on essaye d'être vigilant le reste de l'année pour ne pas ne pas être dans le burn-out, parce que on a le droit à la déconnexion, on a le droit de prendre des pauses, exactement comme l'ouvrier qui reconstituait sa force physique, parce que le cerveau peut pas être en permanence en disponibilité. Voilà. Eh, et que ça crée du lien social et que ça crée effectivement de la consommation dans les terrasses.
Et on en profite pour écouter RMC. Et voilà.
Voilà, exactement. Bonne journée à tous.
Merci Catherine.
Rosine. C'est toujours un plaisir. Au revoir.
Plaisir partagé, Catherine Jal. Alors.
En tout cas, tu vois, ça fait parler. Forcément, c'est du quotidien, c'est du très concret pour nous tous.
Exactement.
Mais, et bon, et comme tu l'as dit, bon, on est resté sur un statu quo, quoi. On en discute, on en parle, on réfléchit sur les jours fériés, mais bon, on les garde.
Ah bah, on les garde, hein, ah, c'est bien.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous marque, ce qui vous touche avec Rémi Barré.
Moi, je me suis dit, Rosine n'a pas parlé de ça.
RMC.
C'est un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosine n'a pas parlé de ça.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
On n'a pas parlé de ça.
C'est vous qui faites l'actu sur RMC. Vous nous appelez au 3216 pour nous dire ce qui vous fait réagir dans l'actualité aujourd'hui, 15 août ou pas, jour férié ou pas. Manon est avec nous.
Bonjour. Salut Rémi, bonjour à tous. Et oui, on est là, on est en direct et puis on accueille Stéphane qui lui aussi est avec nous. Il a composé le 3216 et nous appelle de la Loire. Il veut revenir sur les 100 premiers jours de Macron.
Bonjour, oui, Stéphane.
Oui, bonjour.
Les 100 premiers jours, c'est aujourd'hui, hein. Ça fait 100 jours que Emmanuel Macron est à l'Élysée.
A priori, ouais. Bon, j'espère que ce sera pas trop, trop néfaste. Chaque fois qu'on parle des 100 jours, on pense à Napoléon Bonaparte et on sait comment ça finit.
Waterloo, ouais.
Voilà. Non, bah, je voulais revenir effectivement sur les 100 jours d'Emmanuel Macron, parce que bon, tous les médias en parlent ces derniers jours. Et puis après, je dirais, dans les médias, souvent, c'est, comme on dit, lécher, lâcher et ensuite lyncher. Et c'est en train un petit peu de se passer pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que tous les médias ont été derrière ses basques pendant un certain temps, l'ont monté. Et puis, bah, depuis qu'il a décidé de ne plus parler au 14 juillet, bon, on a senti un petit frémissement. La plupart des médias se sont dit, oh, bah, finalement, Emmanuel Macron, il est peut-être pas à la botte ou aux ordres des journalistes. Donc, finalement, bah, voilà, aujourd'hui, on va dire, il commence à subir quelques représailles.
Vous pensez que les médias sont en train de se venger?
Non. Il dirait après, il peut très bien se planter tout seul. Ça n'est pas un problème. Nos présidents ont l'art et la manière de
oui,
savoir.
Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, oui.
Exactement. Non, je voulais y revenir parce que bah beaucoup ont dit bah finalement il perd beaucoup dans les médias, etc., etc.
Ouais, il perd beaucoup. Stéphane, il perd beaucoup dans les sondages. C'est pareil, on critique beaucoup les sondeurs, les sondages, etc.
Oui.
Bon, n'empêche qu'ils vont tous dans le même sens. Le dernier sondage, il est en date de vendredi, si je me trompe pas, c'est un sondage IFOP et il est à 36% d'opinion favorable. Alors pour cette période des premiers 100 jours, c'est le score de popularité le plus faible sous la 5e République.
Bon. Oui, bon, après on a l'évolution de la société qu'on mérite, hein. Je veux dire, dans les 36%, enfin dans les 36% qu'il a perdu, parce qu'a priori il devait être dans les 60 ou 70%.
Si je me souviens, il était à 64 et aujourd'hui il est à 36,
voilà.
Ouais.
Voilà, donc tous ceux qui ont voté pour lui aujourd'hui et qui le regrettent, bah fallait peut-être y réfléchir avant, d'une part. Hein. On a un suffrage universel, mais après il faut avoir quand même, je dirais, quelque part, avoir des citoyens qui soient un petit peu sensés ou adultes. Hein. C'est bien gentil de voter là où va le vent. Il faut un peu s'instruire, il faut un peu s'éduquer. Je vais être un peu dur avec les électeurs d'Emmanuel Macron, parce que peut-être qu'il voulait du McDo, c'est-à-dire j'achète et je consomme et je veux avoir le résultat tout de suite, mais la politique, ça marche pas comme ça. Et puis, voilà, je voulais être nuancé, parce que pourtant je suis pas quelqu'un qui a voté, moi, justement, pour Emmanuel Macron.
Mais vous, hein, vous, Stéphane, vous avez pas voté pour Emmanuel Macron, alors je sais pas si c'est le cas, si vous attendiez quelque chose, mais de ces 100 premiers jours, vous n'êtes pas particulièrement déçu?
Non. Paradoxalement, non. Alors, pour plusieurs éléments. D'abord, au niveau de la politique internationale, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Mm-hmm. Tout le monde attendait comment il allait s'en sortir face à, on va dire, aux grandes gueules internationales que sont Donald Trump et Vladimir Poutine. Et il a très bien su, on va dire, aller là où va le vent et mettre les petits plats dans les grands. Il a invité Vladimir Poutine à l'occasion donc de l'anniversaire de la visite de Pierre le Grand à Versailles. Poutine savait que Poutine n'était jamais venu à Versailles. Il savait que ça le flatterait. Ça a marché. Donald Trump, bon, voilà, il cherchait un petit peu le concours de celui qui aurait la poigne la plus forte. Bon, ben, ça lui a réussi aussi. Et puis après, pareil, par exemple, à l'inverse de son prédécesseur, qui avait une position, on va dire, moralement défendable sur la Syrie, mais stratégiquement totalement idiote. lui a tout de suite dit bon, Bachar el-Assad n'est pas la chute de Bachar el-Assad n'est pas notre priorité absolue. Ah, c'est en quoi
Stéphane, je vous coupe un instant parce qu'il y a Xavier également, hein, qui a fait le 32-16. Ah, il veut réagir sur le même sujet que vous, mais allez, il n'est pas d'accord. Il est gérant d'auto-école. Il nous appelle de Haute-Garonne.
Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Stéphane. Stéphane, il n'est pas trop déçu par Emmanuel Macron. Vous l'êtes plutôt, c'est ça?
Bah, disons que, enfin, c'est son action qui est décevante. Moi, je suis pas un électeur de Macron non plus, hein, parce que je savais très bien avant les élections à quoi m'en tenir, surtout que notre profession est passée par la moulinette de ses réformes. Donc, je savais vers où on allait. Je pensais effectivement que les gens allaient très vite être déçus. C'est un vrai politicien, hein, c'est un petit peu masqué avant les élections pour dire que lui c'était le renouveau, mais pas du tout, hein. C'est un vrai politicien, il a fait le cursus normal, il a même été ministre. Le mec sait faire pour être élu, il a fait beaucoup de com, il a fait beaucoup de promesses. Moi je me rappelle très bien qu'il a dit bon, ok, je vais y aller par ordonnance, on va se dépêcher, dès que j'aurai ma majorité après au niveau de l'Assemblée, on signera les textes et comme ça la France, moi je vais la faire bouger en 100 jours. Aujourd'hui, au bout de 100 jours, la France, elle a toujours pas bougé, quoi. Je dirais même qu'elle régresse, enfin qu'elle stagne déjà. Et puis, je pense qu'elle régresse également, parce que les réformes qu'il a proposées... Alors, c'est symbolique, hein, 5 euros sur les appels pour les jeunes.
Mais Xavier, est-ce que ça peut changer? Tout peut changer en 100 jours. Il a pas non plus de baguette magique, Emmanuel Macron, qu'on ait voté pour lui ou pas,
parce
d'ailleurs.
On en parlait tout à l'heure dans Radio Brunet avec Pascal Perry. Effectivement, il y a les mêmes types de critiques qui ont eu lieu pour les 100 premiers jours de François Hollande, pour les 100 premiers jours de Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler l'épisode du yacht de Bolloré, etc. Enfin, voilà, est-ce qu'on... Il y a une attente...
Les amis. Est-ce qu'on veut des hommes d'État qui sont des vrais gouvernants ou est-ce qu'on veut des mecs qui sont super carrés sur la com, qui sont là pour se faire élire et après quoi qu'il arrive de toute façon, derrière on va être déçus. Moi je veux dire, quand je vote pour un homme, pour un politique, j'espère avant tout qu'il est là pour faire bouger la France et non pas juste là pour se faire élire. Ce que je veux dire, c'est qu'en 100 jours, il pouvait très bien effectivement lancer des décrets forts, attendre d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite pouvoir les faire ratifier. Or, aujourd'hui, on voit qu'il n'a rien lancé, il n'y a rien d'extraordinaire. La moralisation, déjà, il y a des reculs importants. Le casier judiciaire, ça c'était un truc hyper important à conserver, on l'a enlevé. On peut pas faire bosser sa famille, mais enfin bon, son frère, sa sœur, on peut les faire bosser. Donc c'est faire bosser sa famille. Il y a tout
Xavier,
un tas de trucs comme ça.
Xavier, est-ce que vous entendez Stéphane ce que dit Xavier? Vous n'êtes ni l'un ni l'autre électeur d'Emmanuel Macron, lui est déçu. Enfin, est-ce que vous comprenez sa déception, ses critiques?
Oui, parce que là, je parlais effectivement au niveau international, où il n'a pas été décevant particulièrement, puisque quelque part, il a rehaussé un petit peu le prestige de la France. J'allais dire, il pouvait pas descendre bien plus bas. Ensuite, au niveau social, là, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Xavier, c'est-à-dire qu'il avait tous les pouvoirs, il avait même eu l'Assemblée nationale, contre toute attente. Il aurait pu gouverner très rapidement par ordonnance et profiter de l'été, justement, pour éviter d'avoir le tohu-bohu social qu'il attend à la rentrée, pour faire passer un certain nombre de réformes. Et je n'ai pas compris moi-même pourquoi il n'a pas profité de de la pause du mois d'août pour engager un certain nombre de réformes et que ça puisse passer, on va dire, sans trop de mal socialement parlant.
Je voudrais vous poser une seule question, enfin vous faire une remarque. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, Stéphane et Xavier. Moi, j'ai l'impression quand même, évidemment, après chaque élection présidentielle, il y a une très forte attente à l'égard du nouveau président. Particulièrement, peut-être, après le mandat de François Hollande et puis celui qui a précédé, celui de Nicolas Sarkozy, qui ont fini, bon voilà, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu en 2012, ça veut dire quelque chose. François Hollande a été contraint de renoncer avant de se présenter, ça veut dire quelque chose. Il y a une déception à l'égard de ces deux mandats. Est-ce que là, les Français, justement, n'en attendaient pas trop d'Emmanuel Macron et on lui laisse pas assez le temps? C'est-à-dire qu'on a une forte envie de changement, de renouveau, enfin, que les choses bougent, mais 100 jours c'est très court. Est-ce que vous, il n'y a pas cet aspect-là aussi, et la déception elle est peut-être forte parce que on est impatient?
Alors, je vais répondre en premier si ça dérange pas.
Xavier, allez-y, oui.
Donc oui, il fallait absolument qu'il profite de surfer sur cette vague qui avait tout emporté derrière lui. pourquoi il fallait que les 100 jours soient importants et à marquer d'une pierre blanche, parce qu'aujourd'hui, et depuis Sarkozy, on est sous un quinquennat. Et un quinquennat, c'est très court pour pouvoir gouverner, parce que vous savez comment c'est. La dernière année, elle ne sert à rien, c'est pour se faire réélire si on a envie de le faire. L'année mis avant, c'est pour essayer de tout mettre d'aplomb. Donc en fait, on a véritablement que 2 ans.
D'accord.
Que 2 ans pour gouverner.
Juste, je voudrais faire répondre Stéphane. Xavier, merci. Stéphane, alors les Français sont trop impatients ou pas?
Alors oui et non. Oui et non, parce que la France est un pays de révolution et pas de réforme, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on veut toujours que le pays soit réformé en bien, mais on attend toujours que ce soit le voisin qui accepte la réforme et que nous, ça ne touche pas nos petits privilèges. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où ça nous touche, que ce soit au niveau, bah, par exemple, des APL, au niveau de n'importe quel, on va dire, élément social, qui nous touche, forcément, on va dire non parce qu'on va vouloir protéger son petit précaré comme tous les Français, et malheureusement ça empêche toujours le système français de se réformer.
D'accord.
Et donc il se réforme toujours dans la douleur, ce qu'on appelle la révolution, c'est-à-dire pas obligatoirement une révolution comme celle de 89, mais toujours de manière brutale, voilà, souvent dans la rue ou vraiment avec un remède de cheval, quoi, c'est-à-dire
d'accord.
avoir quelqu'un qui tout d'un coup tape du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, on va faire comme ça. C'est
d'accord, Stéphane.
Ce qu'attendaient les Français.
D'accord Stéphane, merci Xavier, Manon.
Et puis Xavier, on cache un autre, hein. On continue avec un autre Xavier. Sauf que celui-ci, il est dans le Loiret et il veut revenir, il veut te parler des routes des vacances.
Ah bah,
c'est peut-être dans sa voiture, de son week-end du 15 août.
Xavier,
oui, bonjour.
Bonjour Xavier.
Bonjour.
Et sur la route des vacances, sur le départ ou sur le retour?
Ah, je suis sur le retour, je suis rentré chez moi.
Oh, il faut rentrer, de toute façon, au bout d'un moment.
Oui, il y a un moment, non, c'est embêtant les vacances.
Et alors, pourquoi vous voulez nous parler de la route des vacances?
Ah bah, la route des vacances, alors c'est vrai que c'est bien à l'aller, on est content de l'avoir au retour aussi, surtout au niveau des autoroutes. Voilà, donc moi, ce qui m'insurge, c'est le fait que l'on paye, bien sûr, on paye l'autoroute. L'autoroute est de plus en plus chère. Bon, ça nécessite des entretiens, des choses comme ça. Je veux bien tout ça. Le problème, c'est que quand il y a des travaux sur cette autoroute, on se retrouve payé plein pot quand même. En fait, on prend l'autoroute pourquoi? Pour une prestation. On veut rouler à 130 km/h. On veut gagner du temps. On veut gagner aussi une sécurité de la route, des choses comme ça. Donc ça, on l'utilise. On l'utilise cette autoroute pour ça. On prend des abonnements pour ça. Mais quand il y a un tronçon qui est, on va dire, sur une seule voie et où on est obligé de rouler à 90 km/h ou ne serait-ce que 70 km/h sur pas mal de kilomètres, et aucune remise n'est faite. C'est-à-dire vous utilisez une voie, un truc pour aller plus vite, mais en fait avec des travaux qui ne sont absolument pas finis durant l'été.
Oui, mais justement, les travaux se font essentiellement l'été parce que la météo est plus clémente, donc voilà.
Ouais. Ça,
bah oui.
Oui, bah, au printemps aussi, puis à l'automne aussi. Mais il gèle pas.
Il gèle pas
au mois de
mars,
avril.
Les jours sont plus longs et en général, bon, c'est pas toujours le cas en ce moment, mais en général, le temps est plus clément pour que les travaux se fassent l'été. C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est.
Oui,
gênant.
Mais le problème, c'est qu'il y a personne sur les travaux. C'est-à-dire que moi, je veux bien que ça se fasse l'été, mais faut-il encore avoir des ouvriers sur les autoroutes pour pouvoir les achever. Or, ce n'est pas le cas. Moi, encore hier, on a pris l'autoroute, on a roulé, on s'est retrouvé avec des rétrécissements. À 90 km/h, des fois même 70, et le pompon, c'est-à-dire que vous payez plein pot justement pour utiliser une prestation que vous n'avez absolument pas, mais en plus de ça, vous avez droit au fameux radar de chantier, et voilà, qui se mettent là, et qui auquel cas vous êtes à 95 km/h, donc dites-vous que vous avez payé une prestation pour rouler à 130, vous retrouvez à 90, bon, je comprends qu'il faut limiter je suis pas en train de dire qu'il faut griller les vitesses, choses comme ça, mais quand vous avez des radars de chantier, vous payez banco, et en plus de ça, vous n'avez pas la prestation. Et en plus de ça, pour peu que vous dépassiez de 4 ou 5 km/h, vous vous retrouvez avec une amende et un point en moins sur votre permis, si ce n'est plus. J'ai fait, voilà, on est encore les vaches à lait.
Bon,
voilà, et que ce soit les grands, en plus ce sont des grands, hein, ceux les grands, on va dire, ceux qui.
Des grands groupes.
Les grands groupes, voilà.
En tout cas, Xavier, hein, vous faites bien sûr bien attention sur la route, hein, même tous ceux
qui. Bien sûr, bien sûr.
Il est déjà rentré.
Écoutez sur RMC, vous faites attention sur la route.
Ouais.
Et puis, merci Xavier, on va finir avec Jean-Paul, très rapidement, qui veut revenir sur le débat des œufs contaminés.
Ouais.
Bonjour Émile, bonjour Manon.
Bonjour Jean-Paul.
Voilà, alors moi, là où je suis un peu en colère en ce moment, c'est cette histoire-là des œufs contaminés.
Oui.
Déjà parce qu'on apprend que cela fait depuis 2016 qu'on est au courant apparemment de cette contamination.
Alors c'est ce que dit le ministre belge de l'agriculture, parce que la Belgique a été également concernée par le scandale, c'est ce que dit le ministre belge de l'agriculture, mais en revanche, les Pays-Bas d'où viennent les œufs démentent eux. Voilà.
Bon, alors, c'est un peu compliqué. Bon, oui, les uns vont se jeter la balle comme toujours. Quoi qu'il en soit, on est en août 2017. Ça fait quand même beaucoup de temps de passer. Et aujourd'hui, ce scandale est avéré. Hein. Il est mondial. Il n'est pas seulement dans le Benelux. On le retrouve maintenant apparemment en Asie et autres. Et voilà, donc je suis assez surpris que les institutions sanitaires françaises n'aient pas pu anticiper ce genre de problème. Je croyais qu'on était extrêmement contrôlé dans notre pays, puisqu'on se targue d'avoir une charte qualité sur l'alimentaire qui serait meilleure que les autres. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'une filière va encore pâtir d'une très mauvaise réputation, celle des œufs, et on apprend ce matin qu'une liste va être donnée.
C'est ça, le ministre. Voilà, c'est ça, le ministre de l'agriculture français va dévoiler, a annoncé ce matin qu'il allait dévoiler la liste des marques qui ont utilisé ces œufs et des produits dans les prochains jours. Merci Jean-Paul de nous avoir appelé au 32-16 sur RMC. Arnaud Souk est là en studio, 15 août ou pas, c'est Intégral Foot.
Ah bah oui. Salut Rémi, salut Manon, non, on va pas parler de
poule. Non,
on va pas parler de
poule. Non.
Peut-être la poule aux œufs d'or, Mbappé.
C'est beau.
Mbappé prend-il le risque de tout perdre? Moi, je vous pose cette question.
Est-ce qu'il va se faire plumer?
Est-ce qu'il va se faire plumer? T'as un petit jeu de mots, Manon?
Non, là, vous êtes trop fort pour moi. Je ne peux pas concourir, là.
Bon, est-ce qu'il prend le risque de tout perdre, le Monégasque? Oui, parce que, c'est vrai que lui, il veut absolument aller au Paris Saint-Germain. Ça fait 3 semaines qu'on parle de son transfert. Le mercato se termine dans 2 semaines. Et pour l'instant, le PSG ne s'est pas mis d'accord avec l'AS Monaco. Pendant ce temps-là, le Real Madrid.
Il est puni.
Et pendant ce temps-là, le Real Madrid et Manchester City, ils ont dit stop à ce dossier. Ce qui fait que soit il reste à Monaco, soit il va au Paris Saint-Germain. Enfin bref, il y a plein de choses compliquées. On en débat dans un instant avec Coach Courbis.
Merci Arnaud. Intégral Foot tout de suite sur RMC.